Jean de la Brette. Rêver et vivre. Chapitre 1. Si je n'aime pas, je ne suis rien, disait Racine. Belle parole dont M. Dautrel, à 200 ans de distance, s'était emparé comme de son bien propre pour plaider devant son fils la cause du mariage, bouleverser les idées du jeune homme et le décider à chercher en province l'amour et le bon sens. En général, l'amour exclut le bon sens, mais dans le cas particulier de Robert Dautrel, son père était convaincu que le Dieu, dérogeant à ses habitudes, mettrait dans le cerveau de son fils le bon sens qu'il prétendait n'y être pas. Racine était-il dans le vrai, et à quel objet s'appliquait son mot ? Demanda Robert. Ne serait-ce pas à la Champmeslé ? Jamais, répondit M. Dautrel, avec autant de conviction que s'il avait vécu dans l'intimité du poète. Jamais, au grand jamais. La pensée est de Racine seconde manière. Ah, mais ne pourrait-on, en ma faveur, lui donner une application première manière ? Il n'est pas question d'une Champmeslé, mais d'une jeune fille charmante dont tu t'éprendras à première vue. Je te connais bien, Robert. Sous tes attitudes de rêveur incorrigible, il y a un cœur ardent qui aimera pour la vie quand il aimera. Après réflexion, l'opinion de M. Dautrel sur son fils parut à celui-ci assez flatteuse, mais il protestait intérieurement contre la critique renfermée dans cette épithète « rêveur incorrigible ». Pourquoi se corrigerait-on ? On naît avec un visage auquel on ne peut rien. Selon Robert, on naît également avec un tempérament qui meurt avec soi. À 90 ans, il chercherait encore à s'affranchir de ce que nous appelons communément la réalité. Il chercherait dans les veines de la fleur les carmins les plus délicats et, jusqu'alors, le mariage lui apparaissait comme une grosse couleur parfaitement vulgaire. Il avait sur la réalité l'idée personnelle qu'elle ne signifiait pas toujours le réel, et bien qu'il ne ressemblât nullement au solitaire du Port-Royal qui marchait dans le monde comme dans une forêt enchantée, où chaque objet qu'on rencontre en recèle un autre plus vrai et cache une merveille, Robert pensait qu'il faut souvent plonger sous la réalité pour découvrir le vrai. Ses réflexions, justes ou non, mais au fond assez moroses, lui étaient inspirées par les propos de son père. Il fit observer respectueusement que cette jeune fille lui étant inconnue, il semblait que, dans la circonstance, ce fût l'auteur de ses jours qui marcha dans le rêve. « Je n'ai jamais rêvé, » répondit vigoureusement cet auteur, « et ici, je rêve moins que jamais. Jolie fille, bonne éducation, fortune convenable, ce projet est la réalité même. » Robert écoutait distraitement. Il songeait à l'expression démodée « auteur de ses jours », qui, venant de lui traverser la cervelle, lui représentait le charme vieillot d'une chose surannée. Il aimait avec passion le suranné, les pierres effritées, les locutions démodées et les usages disparus. « Quel regret, dit-il en se répondant à lui-même, de ne pouvoir revenir en arrière pour traverser toutes les époques afin d'en bien connaître la mentalité et le pittoresque. » M. Dautrel, qui prenait alors son petit déjeuner et dévorait avec entrain un nombre incalculable de tartines, s'interrompit pour contempler son fils avec le plus grand mépris. « Cette affaire pitié, je te parle d'un sérieux projet de mariage et tu me réponds par des bilvesées. Passeras-tu ta vie avec des ombres flottantes ?»« Ombres flottantes, Goethe a parlé d'elles et les a aimées, » répondit Robert d'un ton rêveur. « Tu n'es pas Goethe, morbleu !»« Qu'en sait-on ? J'en suis peut-être un diminutif. Poète, artiste, rêveur, ont, croyez-le bien, beaucoup de points communs. »« 32 ans !» s'écria son père tragiquement. « Et lorsque je lui ai donné de bons conseils, voilà les seules réponses que j'ai jamais entendues sortir de sa bouche. » »« La bouche est le canal naturel de la parole. » répliqua sentencieusement Robert, qui regardait M. Dautrel en souriant. Il le définissait, esprit positif et cœur excellent, intelligence ouverte, mais ouverte à ce que les yeux perçoivent, et jamais aux ombres flottantes dont elle ne saisit ni les contours, ni la nuance, ni l'essence. Physiquement, c'était un homme de 60 ans, grand, robuste, avec une voix énorme. Il avait de bons yeux ronds, expressifs et d'abondants cheveux gris, aussi soignés dans leur coupe que toute la mise correcte de M. Dautrel. Robert adorait son père, pensait qu'il se jetterait volontiers au feu pour lui et s'empressa, en termes choisis, de lui exprimer ce sentiment. « Et que veux-tu que je fasse de toi dans le feu ? Marie-toi et donne-moi des petits-enfants, c'est mon seul désir, ma seule exigence. » Cependant, reprit Robert enflammé subitement pour son idée, « se jeter au feu pour un homme est une preuve admirable d'affection. Nous ne sommes pas incendiés et, en attendant l'incendie, jette-toi dans le mariage. » Ce rapprochement inquiéta Robert et le fit réfléchir. « Voulez-vous dire que se marier, c'est se jeter dans le feu ? Mais alors ?»« Bon Dieu, quel garçon !» répliqua son père, moitié riant, moitié fâché. « Je veux dire que tu dois prendre une femme raisonnable qui aura soin de toi quand je serai parti. Car avec ta tournure d'esprit, si tu restes seul, tu rêveras ta vie au lieu de la vivre. » Rêver sa vie, quelle heureuse expression! « Elle exprime une sottise !» gronda M. Dautrel. « Je ne trouve pas. Et pourquoi ne la rêverait-on pas ? Ne serait-ce pas simplement en prendre le suc et en écarter le déchet ? Ne serait-ce pas boire à ses sources cachées ? En vérité, vous avez donné une formule précise à ma conception encore indécise de la vie. » « Il ne manquerait plus que cela !» répondit M. Dautrel, consterné. « Allons, Robert, la fortune jusqu'ici t'a choyé, mais prends la résolution d'être bon à quelque chose. Rendre une femme heureuse et bien élever ses enfants, voilà un but déterminé. » « Bon à quelque chose, » répéta Robert un peu offusqué. « Vous oubliez mes études plus que complètes, puisque je suis sorti de l'école des Chartes et que depuis j'ai passé ma jeunesse à travailler. » « Oui, un vrai rat de bibliothèque, toujours dans les vieilles paperasses et les vieux objets. Je t'ai vu disserter pendant des heures sur un morceau d'étoffe moisie. Avec cela, tu ne sais même pas t'habiller et choisir une cravate. » « Bah, mieux vaut être rat de bibliothèque, voire même antiquaire. » « Au diable les bibliothèques, c'est à elles que j'attribue ta manière de penser à tort et à travers. » « Vous traitez bien mal la science des vieux grimoires. Cependant, elle n'a pas oblitéré mon jugement au point de ne pas comprendre que l'on peut vivre des siècles avec ceux qu'on aime, sans rencontrer l'occasion de donner sa vie pour eux, mais que contribuer à leur bonheur est affaire de volonté. Donc, je me marierai. » « Tu es charmant, » répondit M. Dautrel en lui serrant la main. « Quand pars-tu ? » « Quand vous voudrez, le temps de courir chez un autre tailleur, » répondit le jeune homme en riant. 15 jours après cette conversation, Robert arrivait à Loches, où résidait une tante de sa future fiancée. Il devait entrer immédiatement en relation avec elle pour combiner des entrevues et se renseigner sur les maisons où il aurait la bonne fortune de rencontrer la jeune fille. Son premier soin fut de tomber en extase sur l'aspect de Loches, ses murailles gigantesques, ou plutôt ses remparts, ses trois enceintes, dont la première s'est à peine modifiée, ces rues étroites dans lesquelles il découvrait sans raison de penser à tort ou à travers. Les mains derrière le dos, la tête ombragée par un large et laid chapeau emporté subrepticement parce qu'il lui était commode, il erra toute la journée, oubliant complètement son mariage et les recommandations de son père. Le soir seulement, il se rappela la raison première de son voyage à Loches. « Quelle cité ! » écrivit-il à M. Dautrel. « Quelle exquise cité ! J'ai erré aujourd'hui du donjon au château royal, du château à l'église Saint-Ours, autrefois collégiale. Donjon, château, collégial, couvent des Ursulines, dont les bélitres qui nous gouvernent ont chassé les habitantes, maisons peu nombreuses appartenant à des particuliers, sont compris dans la première enceinte de la ville. On y entre dans cette enceinte. On n'en sort que par une porte unique qui passerait elle-même à bon droit pour un donjon. Je suis demeuré seul sur la terrasse du château. les figures moqueuses ou boudeuses sculptées au coin des fenêtres Renaissance, se moquaient, je l'espère, des hommes fugaces ou gémissaient d'un air grognon sur leur goût détestable. Qui donc remplace les hôtes royaux dont les pieds ont foulé les degrés moussus du large escalier de la terrasse, dont les regards se sont reposés sur la vallée de l'Indre, que domine le château bâti sur la haute butte fortifiée? Ces produits mesquins de notre système administratif, un sous-préfet et des paperasses. A-t-il, ce fonctionnaire, une âme assez artiste pour se sentir complice du mauvais goût qui le loge dans les appartements habités par les rois de France? Voit-il au moins que sa vilaine silhouette en veston est une anomalie ridicule avec la présence de la dame de beauté, de la douce et faible Agnès Sorel, dont la robe, bordée de vert, traîne encore sur les dalles, tant son souvenir est vivant ici. Il faudrait détruire les gens de goût exécrable en commençant par noyer les sous-préfets et leurs papiers dans l'Indre qui serpentent au bas de la ville. Peut-être l'Indre était-elle autrefois le rempart naturel de la troisième enceinte. De vieilles maisons plongent leur base dans la rivière et les branches d'arbres plantureux effleurent l'eau tranquille. C'est encore une dernière demeure trop poétique pour un sous-préfet. Vous-même, mon cher père, rêveriez sur la grande terrasse et, en contemplant la belle Diane, vous entendriez les soupirs du comte de Saint-Vallier. Il traverse les murailles du donjon imposant, glisse sur le chemin mélancolique où un mail de tilleul séculaire est planté, descend un escalier centenaire et, remontant un chemin abrupt, passe devant la collégiale pour s'éteindre à l'entrée du château. Longtemps après les Comines, les Saint-Vallier, les Ludovic Sforza, les Ducs d'Alençon, dans des temps cependant différents, les plaintes de ceux que la Révolution avait enfouis dans les cachots ont passé également à travers les étroites fissures des murailles, trois fois épaisses. Dans le château même, c'est-à-dire loin du donjon formidable, le duc d'Elbeuf, emprisonné dans la chambre d'Anne de Bretagne, trompait sa détresse par des stances amoureuses peintes de sa main sur le mur. Elle chante le tendre amour et la douce espérance, elle chante la blessure dont il vivait encore. À droite de Saint-Ours se trouve le presbytère. À gauche, de l'autre côté de l'église, la maison du vicaire. Maison toute petite, vermoulue, chambranlante, délicieuse, avec son escalier extérieur et ses fenêtres minuscules à carreaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Le toit, formé de petites briques carrées, noircies par le temps et les lichens, comme la plupart des toits de la ville, s'affaisse un peu comme s'il voulait enfouir sous ses ruines les hommes détestés par nos odieux jacobins. Le chevet de l'église n'est séparé de l'extrémité du roc que par une largeur d'un mètre. Par cet étroit sentier bordé d'un mur d'appui, le jardin abandonné du vicaire communique avec le jardin bien cultivé du curé. C'est un coin où l'on pénètre dans l'intimité de la vie humaine, infiniment plus profondément que sur la terrasse royale, au milieu d'une cour brillante. Il y a là un contraste qui s'empare de l'imagination. Ce coin, du moins, a conservé son homogénéité avec le passé. La pensée et le cœur s'y élèvent sur les mêmes ailes, tandis que, à quelques pas, dans la demeure de styles divers et admirables, l'esprit d'un sous-préfet, ignorant des grandes idées qui, au milieu de travers et de fautes nombreuses, songe à son avancement et au jeu de ses enfants installés près du merveilleux marronnier planté par François Ier. Les arbres, ici, ont plus de goût que les hommes. Adieu, mon cher père, je n'ai encore rien reçu de Mauvrier, il est sans doute absent. En attendant sa réponse, je reste à Loches même sans bouger. Robert. Post-scriptum. Cette ville ensorcelante m'a fait oublier mon mariage. Après-demain, j'irai voir Madame de Chassé. Je me donne encore un jour de griserie, après quoi je penserai à la réalité. Pourvu que cette dame ressemble aux vieux escaliers herbus et brisés. Le lendemain, il se laissa prendre un peu plus par l'ensorcellement des vieilles choses qui évoquaient le passé d'une façon si vivante et il allait retarder encore son contact avec la réalité quand il revint à lui en recevant le billet suivant. « Je me moque bien des soupirs du comte de Saint-Vallier. Ce sont les cris de mes petits-enfants que je veux entendre. Le duc d'Elbeuf me plaît. Je te prie d'être blessé de la même manière, le plus vite possible. Comme on ne peut pas replanter Charles VII ou un autre roi dans son château, je ne vois pas pourquoi un sous-préfet n'y jouerait pas avec ses enfants. Mais les rêveurs ne connaissent que les idées biscornues. Je n'ai jamais vu une femme ressembler à un escalier, fût-il herbu et brisé. En revanche, j'ai vu un homme qui n'a pas le sens commun, c'est mon fils. Descends des terrasses ou des maisons du vicaire et fais immédiatement la conquête de cette dame. Style militaire, impossible de mieux commander la parade, se dit Robert en riant. La maison de Madame de Chassé était située rue Saint-Ours, au bas de la première enceinte, sous le château royal. Dans la cour où il fut introduit, Robert tomba en arrêt devant une porte du XVe siècle. « On l'admire beaucoup, dit la femme de chambre. Elle est pourtant trop vieille. »« Trop vieille ? Misérable ! Quel travail ! Quelle finesse ! Quelle ferrure !» Elle le crut fou, mais Robert la rassura en la suivant docilement dans l'intérieur de la tourelle qu'ouvrait la porte du XVe siècle. Il passa devant un escalier en pierre, traversa un petit salon et entra dans un jardin où la domestique le laissa en disant « C'est ici que madame reçoit en été, mais madame est sans doute dans sa chambre car je ne la vois pas. Je prie monsieur d'attendre un instant. » De ce côté, la maison avait une tourelle à chaque coin. Elle était longue, assez étroite, comme la cour et le jardin, le tout bâti et planté sur le haut du mur de la seconde enceinte. Dans la cour, une aile en retour avait pignon sur rue. Le jardin à fleurs, divisé en petits carrés pleins de zinnias magnifiques, d'héliotropes, de fuchsias et surtout de tabac cultivé, était séparé d'un jardin potager par un mur qui conservait des vestiges de sculptures renaissance. Au milieu du mur, un cadran solaire avec cette inscription « Les heures changent, l'ombre fuit ». Robert, dans un cadre qui flattait ses goûts d'une manière si complète, s'absorba dans une rêverie profonde. On le fit attendre longtemps, ce dont il n'eut garde de s'apercevoir. Quand la femme de chambre, après l'avoir cherché, le trouva dans le jardin potager, il était accoudé au mur d'appui, contemplant tantôt un chemin de ronde que l'on apercevait du jardin à l'entrée de la seconde enceinte, les maisons vermoulues et les toits rapides. Madame de Chassé l'attendait sous des tilleuls touffus à l'extrémité la plus large du jardin à fleurs. C'était une femme de 70 ans environ, grande, plate, avec une figure effacée et une toilette quelconque. Robert vit aussitôt qu'il n'y avait aucune ressemblance entre la maîtresse de ce logis charmant et un escalier pittoresque. Il s'en prit intérieurement aux chemins de fer et aux automobiles qui font pénétrer dans les moindres coins les mêmes mœurs et les mêmes chapeaux. « C'est insupportable, se dit-il, une maison si particulière, habitée par une femme si banale. » Aux premières questions qui lui furent posées sur sa vie à Paris, Robert, avec un rare à propos, se lança à corps perdu dans un dithyrambe sur la ville de Loches. Après ce bel exploit, il comprit qu'il fallait suivre le conseil de son père et descendre de ses terrasses dans le vil prosaïsme. Il se laissa questionner et vit bientôt qu'il passait un examen en règle. En tout cas, pensait-il, elle est jusqu'au cou dans son rôle de vieille tante. « Malgré votre fortune, monsieur, vous avez fait des études les plus brillantes ?»«
On le dit, madame. »«
Comment on le dit ? Un fait est un fait. » C'est un axiome que j'ai entendu formuler plusieurs fois. Est-il exact ? Je n'en sais rien et, en général, je me défie des axiomes. » Il s'aperçut que Madame de Chassé, très perplexe, cherchait à définir quel fait probant représentait Robert d'Autrel. Était-il un niais, un déséquilibré ou un original ? Lorsqu'on a fille ou nièce à marier, un homme qui possède 150 000 francs de rente passe rarement pour un fou ou un idiot. Robert, observateur et fin, suivait la pensée de Madame de Chassé et s'amusa beaucoup quand il comprit qu'elle s'empressait d'adopter le parti de l'originalité.
« Monsieur, dit-elle aimablement, de sérieuses et brillantes études sont un fait tout en votre faveur. »
Robert s'inclina. « Mon Dieu, madame, fussé-je ferré sur le sanskrit, j'ignore ce qui gagnerait le bonheur de mademoiselle votre nièce. »
« Ma nièce est intelligente, monsieur, et le savoir chez un homme prouve le développement de ses facultés. » C'est encore une chose qu'on dit, répliqua Robert avec résignation. Mademoiselle Lelioran serait-elle amateur de science pour elle-même ? Demanda-t-il avec un vague effroi.
Jean en sait assez pour s'intéresser aux études de son mari, c'est tout.
Robert Dautrel respira et se mit à écouter sans distraction l'éloge de Mademoiselle Lelioran. Madame de Chassé lui parla de l'éducation de sa nièce, éducation anglaise, qui avait développé de nombreuses qualités.
On a blâmé, moi la première, la liberté de cette éducation. Mais il n'y avait rien à craindre. Ma nièce est une petite Jeanne d'Arc.
Déjà consterné par l'annonce d'une éducation anglaise qu'il considérait en France comme l'absence à peu près absolue d'éducation, Robert, au nom de Jeanne d'Arc, fut précipité dans le plus amer désarroi. Sa fiancée, en haubert et l'étendard à la main, lui fut insupportable. « Mademoiselle Lelioran, une héroïne » murmura-t-il en jetant un regard effaré autour de lui, avec la crainte d'apercevoir un fantôme cuirassé. « Madame, dit-il résolument, je n'admets Jeanne d'Arc qu'à Orléans, sur le bûcher ou sur les autels. Dans ma maison, jamais. » Si Madame de Chassé avait connu une comparaison plus forte pour exprimer son opinion sur sa nièce, elle l'eût employée. De plus, comme les gens qui vivent seuls, en face d'horizons bornés, le pli que les circonstances donnaient à sa pensée lui paraissait être celui du monde entier. Elle ne se doutait même pas de l'effet que pouvait produire sa comparaison bizarre. Un instant déconcertée, elle expliqua son idée à cet homme instruit qui ne comprenait rien.
« Monsieur, quand je compare ma nièce à Jeanne d'Arc, je veux simplement dire qu'elle traverserait tout un régiment sans que nul songe à l'insulter, tant elle est comme il faut. »«
Ah ! Bien, bien, madame !» L'image de sa femme traversant un régiment parut plutôt pénible à Robert, et d'ailleurs, il ne voyait pas que ce fût l'habitude des Anglaises. Mais il commençait à trouver que Madame de Chassé, avec un génie évidemment douteux, était moins banale qu'il ne l'avait d'abord supposé, et il enchanta la vieille dame en exposant ses projets sans plus tarder. « Je compte passer quelques semaines chez mon ami, Monsieur Mauvrier. » Je suppose qu'il est absent, car je n'ai pas reçu de réponse à la lettre qui lui annonçait mon arrivée en Touraine. Beaulieu, où il habite, est tout près de Loches,
à 2 kilomètres environ.
En sortant d'ici, j'irai chez lui.
Nous savons que vous êtes très lié avec M. Mauvrier.
Vos arrangements, continua Madame de Chassé d'un air réfléchi, sont conformes à la prudence et aux convenances. Vous et ma nièce pourrez ainsi vous étudier sans inconvénient.
Sans inconvénient, répondit distraitement Robert. Quelle bonne et belle nature que celle de Mauvrier. J'ai été 2 ans sans le voir, c'est long. Aussi je me réjouis de me dédommager en passant quelque temps chez lui. Vous ne devez pas avoir dans le pays beaucoup d'hommes de sa valeur, et je suppose qu'il est très aimé.
Il est apprécié, répondit Madame de Chassé, d'un ton qui renfermait des sous-entendus. Robert allait poser des questions, mais le carillon d'une sonnette vivement secouée détourna son attention.